Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Morning Bull Live. Nous sommes le 15 juillet 2021 et on a fini notre témoignage, notre premier témoignage de Jérôme Powell. Donc, vous le savez, à moins que vous étiez parti sur une île déserte sans connexion avec aucun réseau filaire ou non filaire du monde. Hier, Monsieur Powell témoignait devant le Congrès pour parler de l'état de l'économie, de ce qui se passait, enfin de la gestion de la crise via la Fed. Alors, grosso modo, ce qui est assez fou, si vous regardez un petit peu les performances des marchés, des indices hein, hier, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il s'est globalement rien passé, puisque aux États-Unis, vous avez le S&P et le Dow Jones qui terminent péniblement en hausse et le Nasdaq qui termine légèrement en baisse, mais quand on voit le Nasdaq qui baisse de 0,2%, il n'y a pas de quoi non plus se rouler par terre dans la boue en hurlant de douleur. Par contre, si on regarde un petit peu ce qui se passe à côté, c'est devenu beaucoup plus intéressant. Alors, juste pour résumer ce que Monsieur Powell a raconté hier, grosso modo, c'est, vous savez, c'est un peu le spectacle hyper bien rodé. Hein, c'est un peu comme quand vous voyez, un Gad Elmaleh qui vous fait son spectacle sur le blond. On sent que c'est pas la première fois qu'il fait le sketch et que tout le monde est au courant de ce qui va se produire ensuite. Sauf que à chaque fois, ça fait rigoler quand même. Alors, Powell nous fait pas rigoler, mais c'est vrai qu'il a ce côté où il répète quand même beaucoup de choses. Hein. Donc il y a un gros passage dans son spectacle qui s'appelle l'inflation transitoire qui reste extrêmement présent. Donc il a continué à marteler cette chose qui nous martèle depuis 6 mois, hein, comme quoi effectivement l'inflation est forte. On a encore eu les preuves récemment sur le CPI, mais ce qu'il faut retenir de cette inflation qui est forte, c'est qu'elle ne devrait pas durer, selon lui. Donc pas de problème de ce côté-là. C'est juste tout va bien pour l'instant. Hein. Tout est sous contrôle. Il recommande la patience. Il veut pas prendre de mesure un peu trop rapidement, de toute manière, un peu ce qu'il racontait déjà hier en pré-témoignage. Donc franchement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le marché continue à tenir le coup puisque il nous laisse pas supposer qu'il va faire quoi que ce soit dans l'immédiat et que pour l'instant tout est sous contrôle. On a un peu l'impression que c'est le gourou, hein. Il sait exactement ce qui va se passer, où est-ce que ça va se passer, comment ça va se passer et quand est-ce que ça va se passer. Donc je l'ai déjà dit plusieurs fois, on a l'impression que le mec il a la voiture de retour vers le futur pour se balader dans le temps et puis essayer de voir ce qui va se passer plus tard. Donc en tous les cas, un discours très bien rodé, une communication très bien gérée de la part de Powell. Donc du coup, les marchés ne faisaient rien, mais montraient une relative satisfaction par rapport à ce qui s'est dit hier. En même temps, il y a eu le Badge Book qui a été publié. Le Badge Book montrait également que l'économie reprenait bien. On attend aussi de voir les résultats au niveau de l'emploi. On y verra encore une fois plus clair cet après-midi puisqu'il y a les chiffres des jobless claims qui vont nous montrer un petit peu ce qu'on peut attendre au niveau de l'emploi et si ça continue à aller dans la bonne direction puisque Powell nous dit que c'est un peu la clé de la suite, la reprise au niveau de l'emploi. Donc globalement plutôt pas mal. À noter quand même 2-3 petites choses qui se sont produites hier. La publication des résultats continue, donc on n'est pas encore dans la grosse semaine, mais comme je vous l'ai dit, depuis le début de la semaine, on a les bancaires qui sont très actifs. Alors hier, on a eu Citi, on a eu Bank of America, on a eu BlackRock qui ont publié. Ce qui est assez intéressant à noter au niveau de la publication des résultats, c'est que tous publient des résultats excellents, tous publient des résultats au-dessus des attentes. Mais finalement, à chaque fois, ça baisse et la surprise n'est pas énorme puisqu'on est convaincu qu'on le savait déjà. Alors oui, on sait depuis quelques jours que les chiffres, enfin depuis quelques semaines plutôt, tout le monde est en train de dire que les résultats des sociétés vont être tellement bons, que les attentes des analystes sont tellement basses, donc il y aura que des bonnes surprises à la hausse. Alors le problème, c'est que d'un côté, vous avez des attentes qui sont tellement basses et tout le monde se dit « ça va être tellement bon ». Et effectivement, c'est tellement bon, mais comme on le savait déjà, eh bien, on vend quand même. Pourtant, on est nettement au-dessus des attentes, mais en même temps, il n'y a pas un analyste qui a le courage, pour rester poli, pour pas dire les coins, d'aller venir en amont et dire « Ok, moi, je monte mes attentes parce que franchement, ça va trop bien ». Et donc, du coup, on a des attentes très basses, des chiffres très bons, et finalement, ça baisse quand même. Parce qu'on s'attendait que ce soit encore mieux que mieux. Donc je crois qu'on est venu un peu trop greed is good. Hein. Merci Monsieur Michael Douglas, merci Gordon Gekko. Mais on est un petit peu dans ce mood-là. On est tellement greed sur les résultats que finalement ça nous suffit jamais. les profits sont excellents, les revenus sont un peu moins bons, donc du coup il y a des doutes là-dessus. Bank of America a tout remis la faute sur le fait que les taux sont trop bas pour eux, donc forcément les banques avec les taux bas ça les arrange pas, mais enfin c'est comme ça, on peut pas gagner à tous les coups. Et puis dans toutes les publications des résultats qui ont été faites hier, ce qu'il faut retenir aussi c'est le discours de monsieur Fink, qui est le patron de BlackRock, qui a quand même dit que lui, il avait des gros, gros, gros doutes sur la possibilité que l'inflation ne soit que transitoire. Alors, il est évident que, avec la déclaration qu'il a fait hier, il est peu probable qu'il parte en week-end chez Monsieur Powell. Mais en tous les cas, il est plutôt convaincu que l'inflation va effectivement continuer à grimper, mais surtout devrait être là pour rester. Donc, ce qui devrait mener à court terme, à court ou moyen terme, une hausse des taux pour essayer d'empêcher cette inflation galopante. Lui, il cite surtout la peur de l'inflation des salaires. C'est vrai que de plus en plus, on voit, en tout cas aux États-Unis, les salaires augmentent dans tous les coins, même dans la restauration. On a vu entre l'avant-pandémie et l'après-pandémie que les salaires ont quasiment doublé dans certains secteurs de la restauration, puisque les gens ne veulent plus faire ce boulot-là, à moins d'être très très bien payé. Et donc du coup, bah, y a une espèce d'inflation naturelle de ce côté-là. Si vous prenez la totalité des gens qui sont dans la restauration, qui sont tout d'un coup augmentés de 20, 30, 40, 50, 100% pour certains, puisque le tarif horaire a complètement changé récemment, eh bien ça met toujours une certaine crainte, une certaine pression que cette inflation des salaires puisse à terme, eh bien, tout nous foutre par terre, puisque voilà, il y a une pression acheteuse qui va naturellement se débloquer derrière. Et Monsieur Fink réitérait encore hier en expliquant que d'ici la fin de l'année, la totalité de ses employés allait bénéficier d'une hausse de salaire de l'ordre de 8%. Et quand on connaît le niveau de salaire des gens dans ce milieu-là, ça représente quand même beaucoup d'argent qui potentiellement peut revenir dans le marché. Donc voilà, globalement, un marché qui n'a pas fait grand-chose, des bonnes nouvelles ou en tout cas des rassurantes du côté de la Fed, mais rien de nouveau puisque finalement, Monsieur Powell ne fait que de répéter ce qu'il a déjà dit et redit ces derniers mois. Donc on est plutôt rassuré. Par contre, ce qui est assez intéressant à regarder, et je pense qu'il faut quand même jeter un œil sur ce qui se passe en ce moment, c'est que eh bien tout n'est pas si rose. Hein. En dehors du fait que on voit qu'il y a quand même peut-être 2-3 problèmes au niveau de l'inflation qui pourraient venir, et puis que l'emploi n'est pas encore reparti à 100%, il y a quand même 2-3 choses qui pointent sur attention, il y a des choses qui se passent. La première chose, eh bien, c'est que Katie Wood est en train de réduire massivement ses positions sur tout ce qui est marché chinois. Alors évidemment, on a beaucoup parlé de la Chine ces derniers temps. C'est pas la première à craquer puis à dire je dégage tout, j'en veux plus. Mais on voit qu'il y a pas mal de big names, de gros fund managers qui sont en train de se casser, de partir du secteur parce que simplement pas parce que le business ne fonctionne plus ou que les boîtes ne fonctionnent plus, mais parce qu'il y a une ingérence massive de l'État et que il y a vraiment trop. Nous on n'aime pas dans la finance quand tout d'un coup vous avez les politiciens qui s'en mêlent parce que ça se finit jamais très très bien. C'est quelque chose qu'on a toujours constaté quand la politique se mêle de la finance, ça se termine en général dans un mur. Et donc là, aujourd'hui, la politique, qui est plutôt une forme de dictature en Chine, eh bien, est en train de mettre la pression sur tout le secteur investissement, puisque finalement, les investisseurs étrangers sont en train de se retirer. Et Katie Wood est la dernière en date à avoir liquidé certaines de ses positions, mettant un petit peu la pression et le doute dans l'esprit de certains investisseurs par rapport à la Chine. Il y a aussi le niveau des IPO. Il y a de plus en plus d'IPO ces temps. C'est pas une grande nouveauté. Les marchés cartonnent. Donc, si vous êtes une start-up et puis que vous avez envie de vous sortir un peu petit de la position start-up, eh bien, il faut vous financer massivement. Donc, on profite de l'occasion pour aller se mettre en bourse. Les fonds de private equity qui sponsorisent les startups à la base se disent bah, c'est l'occasion de faire du cash, finalement de réaliser son investissement. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent en bourse aujourd'hui avec des boîtes qui sont évidemment pas profitables aujourd'hui. Ça nous rappelle quand même vaguement l'an 2000, hein, si vous vous souvenez. Et durant cette période-là, eh bien les IPO explosaient dans tous les sens. Et aujourd'hui, on constate aussi depuis les 12 derniers mois, grosso modo, une inflation au niveau du prix des IPO et de la valorisation des sociétés. Donc en fait, avant, on valorisait ça 30, 40 fois les expectations. Maintenant, on a quasiment monté à 80, donc tout le monde est super bullish sur la valorisation. Vous sortez des IPO qui sont très très chers et finalement, elles ne performent pas du tout derrière. Et il y a une grosse déception. Si vous regardez simplement les graphiques de, Coinbase, les graphiques de DoorDash ou les graphiques de Snowflake, qui sont les stars IPO de ces derniers temps, vous regardez la performance depuis l'IPO, et c'est pas aussi rigolo que ça, parce que ça a pricé très 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 cher. Les premiers prix payés ont été très très hauts. Et aujourd'hui, on est 50-60% en dessous des prix de sortie à l'époque. Donc, méfiance de ce côté-là. Et il faut rester très prudent sur les IPO. C'est pas forcément un très bon signe puisque on avait déjà vécu ça en l'an 2000. Donc pour ceux qui se rappellent ce qui s'est passé ou pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est une autre histoire ça s'est mal terminé. Et puis donc le lien entre ces IPO, et aussi les nouvelles stars de ces derniers temps qui sont sous pression. Regardez Palantir qui a été downgradé. Les plus gros fans de Palantir sont en train de sortir. Peloton qui a été downgradé hier, qui a perdu 33% depuis le début de l'année. On a l'impression que depuis la sortie de crise, entre guillemets Covid, eh bien, les gens sont en train de retourner au fitness finalement peut-être et d'arrêter toutes ces choses qui ont été des stars. Donc méfiance de ce côté-là, sans compter le retour du Covid puisque le nombre d'hospitalisations aux États-Unis est en train d'exploser à nouveau, un peu à l'image de ce qu'on vit aujourd'hui en Europe. Et je vous parle même pas des cryptos qui ne foutent plus rien depuis un mois. Powell en a également parlé hier dans son témoignage en disant que les crypto-monnaies devraient être régulées bientôt, qu'un rapport sortirait de la Fed, et il a recommandé aux investisseurs d'être très 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 prudents pour la suite et des événements. Donc voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Je me suis beaucoup étalé sur le sujet. Je vais juste reprendre encore une question qui m'a été posée parce que j'ai reçu du coup pas mal de questions puisqu'hier je vous ai encouragé à poser des questions. La question qu'on me posait ce matin, c'était de savoir la personne a envie de jouer la volatilité, donc j'ai envie d'acheter une option call ou une option put, mais je maîtrise pas tout à fait le sujet. Donc si vous voulez jouer la hausse de la volatilité, il y a effectivement le moyen d'acheter des trackers qui jouent la hausse de la volatilité, qui s'appelle le VXX, qui joue la hausse du VIX finalement derrière, ou alors des options sur la VIX qui vous permet de jouer une accélération. Par contre, faites très 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 attention, et j'ai déjà dit dans une précédente vidéo, quand vous achetez de la volatilité sur la VIX, donc si vous jouez un call ou une option sur la volatilité, il faut faire très attention parce que le pricing est extrêmement sensible, et pour jouer, vraiment en profiter, il faut avoir un timing d'enfer, à savoir vous achetez le call et le lendemain vous avez un spike de volatilité de 30 ou 40%, là vous gagnez. Par contre, si vous achetez un call et vous le gardez 2 semaines, vous allez vous faire laminer avec la volatilité de l'option même. Donc faites très très attention sur ce genre de choses, c'est très très dangereux. Par contre, si vous voulez simplement jouer la vol, jouer une hausse de la volatilité, vous pouvez simplement acheter un call sur un titre un petit peu plus volatile qui s'est calmé ces derniers temps en jouant la hausse de la vol. Parce que si la VIX commence à exploser demain, admettons qu'aujourd'hui on a la volatilité qui est à 22%, si demain elle monte à 44, tous les titres qui ont des options dessus vont naturellement monter également, puisque la vol du call va également progresser, ou la vol du put également, puisque la VIX est une composante de l'option directement derrière. Donc franchement, si vous voulez jouer la volatilité et que en plus vous me dites que vous n'êtes pas super à l'aise sur le sujet, faites super gaffe, parce que jouer la vol est une question de timing vraiment importante. Si vous gourrez dans le timing, vous allez perdre beaucoup d'argent. Voilà, c'était tout ce qu'il y avait à dire. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis, je vous retrouve demain matin pour le dernier podcast de la semaine. D'ici là, profitez bien de cette merveilleuse météo. Et à demain.